Chapitre 3. La femme accusée. Il est bien peu de femmes qui ne se soient trouvées, une fois dans leur vie, à propos d'un fait incontestable, en face d'une interrogation précise, aiguë, tranchante. Une de ces questions impitoyablement faites par leur mari, et dont la seule appréhension donne un léger froid, dont le premier mot entre dans le cœur comme y entrerait l'acier d'un poignard. De là cet axiome, toute femme ment. Mensonge officieux, mensonge véniel, mensonge sublime, mensonge horrible, mais obligation de mentir. Puis cette obligation admise, ne faut-il pas savoir bien mentir? Les femmes mentent admirablement en France. Nos mœurs leur apprennent si bien l'imposture. Enfin, la femme est si naïvement impertinente, si jolie, si gracieuse, si vraie dans le mensonge. Elle en reconnaît si bien l'utilité pour éviter, dans la vie sociale, les chocs violents auxquels le bonheur ne résisterait pas, qu'il leur est nécessaire comme la ouate où elles mettent leurs bijoux. Le mensonge devient donc pour elles le fond de la langue, et la vérité n'est plus qu'une exception. Elles la disent, comme elles sont vertueuses, par caprice ou par spéculation. Puis, selon leur caractère, certaines femmes rient en mentant. Celles-ci pleurent, celles-là deviennent graves, quelques-unes se fâchent. Après avoir commencé dans la vie par feindre de l'insensibilité pour les hommages qui les flattaient le plus, elles finissent souvent par se mentir à elles-mêmes. Qui n'a pas admiré leur apparence de supériorité au moment où elles tremblent pour les mystérieux trésors de leur amour? Qui n'a pas étudié leur aisance, leur facilité, leur liberté d'esprit pour les grands embarras de la vie? Chez elles, rien d'emprunté. La tromperie coule alors comme la neige tombe du ciel. Puis, avec quelle art elles découvrent le vrai dans autrui? Avec quelle finesse elles emploient la plus droite logique à propos de la question passionnée qui leur livre toujours quelques secrets de cœur chez un homme assez naïf pour procéder près d'elle par interrogation. Questionner une femme, n'est-ce pas se livrer à elle? N'apprendra-t-elle pas tout ce qu'on veut lui cacher? Et ne saura-t-elle pas se taire en parlant? Et quelques hommes ont la prétention de lutter avec la femme de Paris, avec une femme qui sait se mettre au-dessus des coups de poignard en disant « Vous êtes bien curieux, que vous importe ?» Pourquoi voulez-vous le savoir? Ah, vous êtes jaloux. Et si je ne voulais pas vous répondre? Enfin, avec une femme qui possède 137 000 manières de dire non, et d'incommensurables variations pour dire oui. Le traité du non et du oui n'est-il pas une des plus belles œuvres diplomatiques, philosophiques, logographiques et morales qui nous restent à faire? Mais pour accomplir cette œuvre diabolique, ne faudra-t-il pas un génie androgyne? Aussi ne sera-t-elle jamais tentée. Puis, de tous les ouvrages inédits, celui-là n'est-il pas le plus connu, le mieux pratiqué par les femmes? Avez-vous jamais étudié l'allure, la pose, la disinvoltura d'un mensonge? Examinez. Madame Desmarets était assise dans le coin droit de sa voiture, et son mari dans le coin gauche. Ayant su se remettre de son émotion en sortant du bal, Madame Jules affectait une contenance calme. Son mari ne lui avait rien dit et ne lui disait rien encore. Jules regardait par la portière les pans noirs des maisons silencieuses devant lesquelles il passait. Mais tout à coup, comme poussé par une pensée déterminante, en tournant un coin de rue, il examina sa femme, qui semblait avoir froid, malgré la pelisse doublée de fourrure dans laquelle elle était enveloppée. Il lui trouva un air pensif. Et peut-être était-elle réellement pensive. De toutes les choses qui se communiquent, la réflexion et la gravité sont les plus contagieuses. « Qu'est-ce que monsieur de Maulincourt a donc pu te dire pour t'affecter si vivement ?» demanda Jules. « Et que veut-il donc que j'aille apprendre chez lui ?»« Mais il ne pourra rien te dire chez lui que je ne te dise maintenant, » répondit-elle. Puis, avec cette finesse féminine qui déshonore toujours un peu la vertu, Madame Jules attendit une autre question. Le mari retourna la tête vers les maisons et continua ses études sur les portes cochères. Une interrogation de plus n'était-elle pas un soupçon, une défiance ? Soupçonner une femme est un crime en amour. Jules avait déjà tué un homme sans avoir douté de sa femme. Clémence ne savait pas tout ce qu'il y avait de passion vraie, de réflexion profonde dans le silence de son mari. De même que Jules ignorait le drame admirable qui serrait le cœur de sa Clémence. Et la voiture d'aller dans Paris silencieux, emportant deux époux, deux amants qui s'idolâtraient, et qui, doucement appuyés, réunis sur 10 coussins de soie, étaient néanmoins séparés par un abîme.
dans ces élégants coupés qui reviennent du bal, entre minuit et 2 heures du matin. Combien de scènes bizarres ne se passent-ils pas? En s'en tenant aux coupés dont les lanternes éclairent-ils la rue et la voiture, ceux dont les glaces sont claires, enfin les coupés de l'amour légitime, où les couples peuvent se quereller sans avoir peur d'être vus par les passants. Parce que l'état civil donne le droit de bouder, de battre, d'embrasser une femme en voiture et ailleurs, partout. Aussi, combien de secrets ne se révèlent-ils pas aux fantassins nocturnes, à ces jeunes gens venus au bal en voiture, mais obligés, par quelque cause que ce soit, de s'en aller à pied. C'était la première fois que Jules et Clément se trouvaient ainsi chacun dans leur coin. Le mari se pressait ordinairement près de sa femme. « Il fait bien froid, » dit Madame Jules. Mais ce mari n'entendit point. Il étudiait toutes les enseignes noires au-dessus des boutiques. « Clémence, » dit-il enfin, « pardonne-moi la question que je vais t'adresser. » Et il se rapprocha, la saisit par la taille et la ramena près de lui. « Mon Dieu, nous y voici, » pensa la pauvre femme. « Eh bien, » reprit-elle en allant au-devant de la question, « tu veux apprendre ce que me disait monsieur de Maulincour ?»« Je te le dirai, Jules, mais ce ne sera point sans terreur. »« Mon Dieu, pouvons-nous avoir des secrets l'un pour l'autre ?»« Depuis un moment, je te vois luttant entre la conscience de notre amour et des craintes vagues. Mais notre conscience n'est-elle pas claire ? Et tes soupçons ne semblent-ils pas bien ténébreux ? Pourquoi ne pas rester dans la clarté qui te plaît ? Quand je t'aurai tout raconté, tu désireras en savoir davantage. Et cependant, je ne sais moi-même ce que cachent les étranges paroles de cet homme. Eh bien, peut-être y aura-t-il alors entre vous deux quelque fatale affaire. J'aimerais bien mieux que nous oubliassions tous deux ce mauvais moment. Mais dans tous les cas, jure-moi d'attendre que cette singulière aventure s'explique naturellement. Monsieur de Maulincour m'a déclaré que les 3 accidents dont tu as entendu parler, la pierre tombée sur son domestique, sa chute en cabriolet, et son duel à propos de Madame de Cerisy, était l'effet d'une conjuration que j'avais tramée contre lui. Puis, il m'a menacé de t'expliquer l'intérêt qui me porterait à l'assassiner. Comprends-tu quelque chose à tout cela? Mon trouble est venu de l'impression que m'ont causé la vue de sa figure empreinte de folie, ses yeux hagards et ses paroles violemment entrecoupées par une émotion intérieure. Je l'ai cru fou, voilà tout. Maintenant, je ne serais pas femme si je ne m'étais point aperçu que, depuis un an, je suis devenu, comme on dit, la passion de monsieur de Maulincour. Il ne m'a jamais vu qu'au bal, et ses propos étaient insignifiants, comme tous ceux que l'on tient au bal. Peut-être veut-il nous désunir pour me trouver un jour seul et sans défense. Tu vois bien, déjà tes sourcils se froncent. Oh, je hais cordialement le monde. Nous sommes si heureux sans lui. Pourquoi donc l'aller chercher? Jules, je t'en supplie, promets-moi d'oublier tout ceci. Demain, nous apprendrons sans doute que monsieur de Maulincour est devenu fou. Quelle singulière chose, se dit Jules en descendant de voiture sous le péristyle de son escalier. Il tendit les bras à sa femme, et tous deux montèrent dans leurs appartements. Pour développer cette histoire dans toute la vérité de ses détails, pour en suivre le cours dans toutes ses sinuosités, il faut ici divulguer quelques secrets de l'amour. Se glisser sous les lambris d'une chambre à coucher, non pas effrontément, mais à la manière de Trilby, n'effaroucher ni Dougal, ni Jany, n'effaroucher personne, être aussi chaste que veut l'être notre noble langue française, aussi hardi que l'a été le pinceau de Gérard dans son tableau de Daphnis et Chloé. La chambre à coucher de Madame Jules était un lieu sacré. Elle, son mari, sa femme de chambre pouvaient seuls y entrer. L'opulence a de beaux privilèges, et les plus enviables sont ceux qui permettent de développer les sentiments dans toute leur étendue, de les féconder par l'accomplissement de leurs 1000 caprices, de les environner de cet éclat qui les agrandit, de ces recherches qui les purifient, de ces délicatesses qui les rendent encore plus attrayants. Si vous haïssez les dîners sur l'herbe et les repas mal servis, si vous éprouvez quelque plaisir à voir une nappe damassée éblouissante de blancheur, un couvert de vermeil, des porcelaines d'une exquise pureté, une table bordée d'or, riche de ciselures, éclairée par des bougies diaphanes, puis, sous des globes d'argent armoriés, les miracles de la cuisine la plus recherchée, pour être conséquent, vous devez alors laisser la mansarde en haut des maisons, les grisettes dans la rue, abandonner les mansardes, les grisettes, les parapluies, les socs articulés, aux gens qui paient l'ordinaire avec des cachets. Puis vous devez comprendre l'amour comme un principe qui ne se développe dans toute sa grâce que sur les tapis de la savonnerie, sous la lueur d'opale d'une lampe marmorine, entre des murailles discrètes et revêtues de soie, devant un foyer doré, dans une chambre sourde au bruit des voisins, de la rue, de tout, par des persiennes, par des volets, par d'ondoyants rideaux. Il vous faut des glaces dans lesquelles les formes se jouent, et qui répètent à l'infini la femme que l'on voudrait multiple, et que l'amour multiplie souvent. Puis des divans bien bas, puis un lit qui, semblable à un secret, se laisse deviner sans être montré. Puis dans cette chambre coquette, des fourrures pour les pieds nus, des bougies sous verre au milieu des mousselines drapées, pour lire à toute heure de nuit, et des fleurs qui n'entêtent pas, et des toiles dont la finesse eût satisfait Anne d'Autriche. Madame Jules avait réalisé ce délicieux programme, mais ce n'était rien. Toute femme de goût pouvait en faire autant. Quoique, néanmoins, il y ait dans l'arrangement de ces choses un cachet de personnalité qui donne à tel ornement, à tel détail, un caractère inimitable. Aujourd'hui, plus que jamais règne le fanatisme de l'individualité. Plus nos lois tendront à une impossible égalité, plus nous nous en écarterons par les mœurs. Aussi les personnes riches commencent-elles, en France, à devenir plus exclusives dans leur goût et dans les choses qui leur appartiennent, qu'elles ne l'ont été depuis 30 ans. Madame Jules savait à quoi l'engager ce programme, et avait tout mis chez elle en harmonie avec un luxe qui allait si bien à l'amour. Les 1500 francs et ma Sophie, ou la passion dans la chaumière, sont des propos d'affamés auxquels le pain bis suffit d'abord, mais qui, devenus gourmets s'ils s'aiment réellement, finissent par regretter les richesses de la gastronomie. L'amour a le travail et la misère en horreur. Il aime mieux mourir que vivoter. La plupart des femmes, en rentrant du bal, impatientes de se coucher, jettent autour d'elles leurs robes, leurs fleurs fanées, leurs bouquets dont l'odeur s'est flétrie. Elles laissent leurs petits souliers sous un fauteuil, marchent sur les cothurnes flottants, ôtent leurs peignes, déroulent leurs tresses sans soin d'elles-mêmes. Peu leur importe que leur mari voit les agrafes, les doubles épingles, les artificieux crochets qui soutenaient les élégants édifices de la coiffure ou de la parure. Plus de mystère. Tout tombe alors devant le mari. Plus de phare pour le mari. Le corset, la plupart du temps corset plein de précautions, reste là, si la femme de chambre trop endormie oublie de l'emporter. Enfin, les bouffants de baleine, les entournures garnies de taffetas gommé, les chiffons menteurs, les cheveux vendus par le coiffeur, toute la fausse femme est là, éparse. Dissiecta membra poetae. Les fragments épars du poète, 4e satire d'Horace. Dissiecta membra poetae. La poésie artificielle tant admirée par ceux pour qui elle avait été conçue, élaborée, la jolie femme encombre tous les coins. À l'amour d'un mari qui bâille, se présente alors une femme vraie qui bâille aussi, qui vient dans un désordre sans élégance, coiffée de nuit avec un bonnet fripé, celui de la veille, celui du lendemain. Car après tout, monsieur, si vous voulez un joli bonnet de nuit à chiffonner tous les soirs, augmentez ma pension. Et voilà la vie telle qu'elle est. Une femme est toujours vieille et déplaisante à son mari, mais toujours pimpante, élégante et parée pour l'autre, pour le rival de tous les maris, pour le monde qui calomnie ou déchire toutes les femmes. Inspirée par un vrai amour, car l'amour a, comme tous les autres êtres, l'instinct de sa conservation. Madame Jules agissait tout autrement, et trouvait, dans les constants bénéfices de son bonheur, la force nécessaire d'accomplir ses devoirs minutieux desquels il ne faut jamais se relâcher, parce qu'il perpétue l'amour. Ses soins, ses devoirs, ne procèdent-ils pas d'ailleurs d'une dignité personnelle qui s'y est à ravir? N'est-ce pas des flatteries? N'est-ce pas respecter en soi l'être aimé? Donc Madame Jules avait interdite à son mari l'entrée du cabinet où elle quittait sa toilette de bal, et d'où elle sortait vêtue pour la nuit, mystérieusement parée pour les mystérieuses fêtes de son cœur. En venant dans cette chambre, toujours élégante et gracieuse, Jules y voyait une femme coquettement enveloppée dans un élégant peignoir, les cheveux simplement tordus en grosses tresses sur sa tête. Car, n'en redoutant pas le désordre, elle n'en ravissait à l'amour ni la vue ni le toucher. Une femme toujours plus simple, plus belle alors qu'elle ne l'était pour le monde. Une femme qui s'était ranimée dans l'eau, et dont tout l'artifice consistait à être plus blanche que ses mousselines, plus fraîche que le plus frais parfum, plus séduisante que la plus habile courtisane, enfin toujours tendre, et partant, toujours aimée. Cette admirable entente du métier de femme fut le grand secret de Joséphine pour plaire à Napoléon, comme il avait été jadis celui de Césonie pour Gaius Caligula, de Diane de Poitiers pour Henri II. Mais s'il fut largement productif pour des femmes qui comptaient 7 ou 8 lustres, quelle arme entre les mains de jeunes femmes! Un mari subit alors avec délice les bonheurs de sa fidélité. Or, en rentrant après cette conversation, qui l'avait glacée d'effroi et qui lui donnait encore les plus vives inquiétudes, Madame Jules prit un soin particulier de sa toilette de nuit. Elle voulut se faire et se fit ravissante. Elle avait serré la batiste du peignoir, entrouvert son corsage, laissé tomber ses cheveux noirs sur ses épaules rebondies. Son bain parfumé lui donnait une senteur enivrante. Ses pieds nus étaient dans des pantoufles de velours. Forte de ses avantages, elle vint à pas menus et mit ses mains sur les yeux de Jules, qu'elle trouva pensif. en robe de chambre, le coude appuyé sur la cheminée, un pied sur la barre. Elle lui dit alors à l'oreille en le chauffant de son haleine, et la mordant du bout des dents, « À quoi pensez-vous, monsieur ?» Puis, le serrant avec adresse, elle l'enveloppa dans ses bras pour l'arracher à ses mauvaises pensées. La femme qui aime a toute l'intelligence de son pouvoir. Et plus elle est vertueuse, plus agissante est sa coquetterie. « À toi, » répondit-il. « À moi seul ?»« Oui. Oh, voilà un oui bien hasardé. » Ils se couchèrent. En s'endormant, Madame Jules se dit, « Décidément, monsieur de Maulincourt sera la cause de quelque malheur. Jules est préoccupé, distrait, et garde des pensées qu'il ne dit pas. » Il était environ 3 heures du matin lorsque Madame Jules fut réveillée par un pressentiment qui l'avait frappée au cœur pendant son sommeil. Elle eut une perception à la fois physique et morale de l'absence de son mari. Elle ne sentait plus le bras que Jules lui passait sous la tête, ce bras dans lequel elle dormait heureuse, paisible, depuis 5 années, et qu'elle ne fatiguait jamais. Puis une voix lui avait dit « Jules souffre, Jules pleure ». Elle leva la tête, se mit sur son séant, trouva la place de son mari froide, et l'aperçut assis devant le feu, les pieds sur le garde-cendre, la tête appuyée sur le dos d'un grand fauteuil. Jules avait des larmes sur les joues. La pauvre femme se jeta vivement à bas du lit et sauta d'un bond sur les genoux de son mari. « Jules, qu'as-tu? Souffres-tu? Parle. Dis. Dis-moi. Parle-moi si tu m'aimes. » En un moment, elle lui jeta 100 paroles qui exprimaient la tendresse la plus profonde. Jules se mit aux pieds de sa femme, lui baisa les genoux, les mains, et lui répondit en laissant échapper de nouvelles larmes. « Ma chère Clémence, je suis bien malheureux. Ce n'est pas aimé que de se défier de sa maîtresse, et tu es ma maîtresse. Je t'adore en te soupçonnant. Les paroles que cet homme m'a dites ce soir m'ont frappé au cœur. Elles y sont restées malgré moi pour me bouleverser. Il y a là-dessous quelques mystères. Enfin, j'en rougis, tes explications ne m'ont pas satisfait. Ma raison me jette des lueurs que mon amour me fait repousser. C'est un affreux combat. Pouvais-je rester là, tenant ta tête en y soupçonnant des pensées qui me seraient inconnues? Oh, je te crois !» lui cria-t-il vivement en la voyant sourire avec tristesse et ouvrir la bouche pour parler. « Ne me dis rien, ne me reproche rien. De toi, la moindre parole me tuerait. D'ailleurs, pourrais-tu me dire une seule chose que je ne me sois dite depuis 3 heures ? Oui, depuis 3 heures, je suis là, te regardant dormir, si belle, admirant ton front si pur et si paisible. Oh oui, tu m'as toujours dit toutes tes pensées, n'est-ce pas ? Je suis seul dans ton âme. En te contemplant, en plongeant mes yeux dans les tiens, j'y vois bien tout. Ta vie est toujours aussi pure que ton regard éclair. Non, il n'y a pas de secret derrière cet œil si transparent. » Il se souleva et lui baisa les yeux.
« Laisse-moi t'avouer, ma chère créature, que depuis 5 ans, ce qui grandissait chaque jour mon bonheur, c'était de ne te savoir aucune de ces affections naturelles qui prennent toujours un peu sur l'amour. Tu n'avais ni sœur, ni père, ni mère, ni compagne, et je n'étais alors ni au-dessus, ni au-dessous de personne dans ton cœur. J'y étais seul. Clémence, répète-moi toutes les douceurs d'âme que tu m'as si souvent dites. Ne me gronde pas, console-moi, je suis malheureux. J'ai certes un soupçon odieux à me reprocher, et toi tu n'as rien dans le cœur qui te brûle. Ma bien-aimée, dis, pouvais-je rester ainsi près de toi? Comment deux têtes qui sont si bien unies demeureraient-elles sur le même oreiller quand l'une d'elles souffre et que l'autre est tranquille?
À quoi penses-tu donc? S'écria-t-il brusquement en voyant Clémence songeuse, interdite, et qui ne pouvait retenir des larmes. « Je pense à ma mère, » répondit-elle d'un ton grave. « Tu ne saurais connaître, Jules, la douleur de ta Clémence obligée de se souvenir des adieux mortuaires de sa mère, en entendant ta voix, la plus douce des musiques, et de songer à la solennelle pression des mains glacées d'une mourante, en sentant la caresse des tiennes en un moment où tu m'accables des témoignages de ton délicieux amour. » Elle releva son mari, le prit, l'étreignit avec une force nerveuse bien supérieure à celle d'un homme, lui baisa les cheveux et le couvrit de larmes. « Ah, je voudrais être hachée vivante pour toi. Dis-moi bien que je te rends heureux, que je suis pour toi la plus belle des femmes, que je suis 1000 femmes pour toi, mais tu es aimée comme nul homme ne le sera jamais. Je ne sais pas ce que veulent dire les mots devoir et vertu. Jules, je t'aime pour toi. Je suis heureuse de t'aimer, et je t'aimerai toujours mieux que mon dernier souffle. J'ai quelque orgueil de mon amour. Je me crois destinée à n'éprouver qu'un sentiment dans ma vie. Ce que je vais te dire est affreux. Peut-être. Je suis contente de ne pas avoir d'enfant, et n'en souhaite point. Je me sens plus épouse que mère. Eh bien, as-tu des craintes? Écoute-moi, mon amour. Promets-moi d'oublier. Non pas cette heure mêlée de tendresse et de doute, mais les paroles de ce fou. Jules, je le veux. Promets-moi de ne point le voir, de ne point aller chez lui. J'ai la conviction que si tu fais un seul pas de plus dans ce dédale, nous roulerons dans un abîme où je périrai, mais en ayant ton nom sur les lèvres et ton cœur dans mon cœur. Pourquoi me mets-tu donc si haut, en ton âme, et si bas, en réalité? Comment, toi qui fais crédit à tant de gens de leur fortune, tu ne me ferais pas l'aumône d'un soupçon? Et pour la première occasion dans ta vie, où tu peux me prouver une foi sans borne, tu me détrônerais dans ton cœur? Entre un fou et moi, c'est le fou que tu crois. Oh, Jules! Elle s'arrêta, chassa les cheveux qui retombaient sur son front et sur son cou. Puis, d'un accent déchirant, elle ajouta. J'en ai trop dit. Un mot devait suffire. Si ton âme et ton front conservent un nuage, quelque léger qu'il puisse être, sache-le bien, j'en mourrai. Elle ne put réprimer un frémissement et pâlit. Oh, je tuerai cet homme, se dit Jules en saisissant sa femme et la portant dans son lit. Dormons en paix, mon ange, reprit-il. J'ai tout oublié, je te le jure. Clémence s'endormit sur cette douce parole, plus doucement répétée. Puis Jules, la regardant endormie, se dit en lui-même, elle a raison. Quand l'amour est si pur, un soupçon le flétrit. Pour cette âme si fraîche, pour cette fleur si tendre, une flétrissure, oui, ce doit être la mort. Quand, entre deux êtres pleins d'affection l'un pour l'autre, et dont la vie s'échange à tout moment, un nuage est survenu, quoique ce nuage se dissipe, il laisse dans les âmes quelques traces de son passage. Ou la tendresse devient plus vive, comme la terre est plus belle après la pluie, ou la secousse retentit encore, comme un lointain tonnerre dans un ciel pur. Mais il est impossible de se retrouver dans sa vie antérieure, et il faut que l'amour croisse ou qu'il diminue. Au déjeuner, monsieur et madame Jules eurent l'un pour l'autre de ces soins dans lesquels il entre un peu d'affection. C'était de ces regards pleins d'une gaieté presque forcée, et qui semblent être l'effort de gens empressés à se tromper eux-mêmes. Jules avait les doutes involontaires, et sa femme avait des craintes certaines. Néanmoins, sûrs l'un de l'autre, ils avaient dormi. Cet état de gêne était-il dû à un défaut de foi? Au souvenir de leur scène nocturne, ils ne le savaient pas eux-mêmes, mais ils s'étaient aimés. Ils s'aimaient trop purement pour que l'impression, à la fois cruelle et bienfaisante de cette nuit, ne laissât pas quelques traces dans leurs âmes. Jaloux tous deux de les faire disparaître et voulant revenir tous les deux le premier l'un à l'autre, ils ne pouvaient s'empêcher de songer à la cause première d'un premier désaccord. Pour des âmes aimantes, ce n'est pas des chagrins. La peine est loin encore. Mais c'est une sorte de deuil difficile à peindre. S'il y a des rapports entre les couleurs et les agitations de l'âme, si, comme l'a dit l'aveugle de Locke, l'écarlate doit produire à la vue les effets produits dans l'ouïe par une fanfare, il peut être permis de comparer à des teintes grises cette mélancolie de contre-coup. Mais l'amour attristé, l'amour auquel il reste un sentiment vrai de son bonheur momentanément troublé, donne des voluptés qui, tenant à la peine et à la joie, sont toutes nouvelles. Jules étudiait la voix de sa femme. Il en épiait les regards avec le sentiment jeune qu'il animait dans les premiers moments de sa passion pour elle. Les souvenirs de 5 années tout heureuses, la beauté de Clémence, la naïveté de son amour, effacèrent alors promptement les derniers vestiges d'une intolérable douleur. Ce lendemain était un dimanche, jour où il n'y avait ni bourse ni affaire. Les deux époux passèrent alors la journée ensemble, se mettant plus avant au cœur l'un de l'autre qu'ils n'y avaient jamais été, semblables à deux enfants qui, dans un moment de peur, se serrent, se pressent et se tiennent, s'unissant par instinct. Il y a dans une vie à deux de ces journées complètement heureuses, dues au hasard, et qui ne se rattachent ni à la veille, ni au lendemain, fleurs éphémères. Jules et Clémence en jouirent délicieusement, comme s'ils eussent pressenti que c'était la dernière journée de leur vie amoureuse. Quel nom donner à cette puissance inconnue qui fait hâter le pas des voyageurs sans que l'orage soit encore manifesté, qui fait resplendir de vie et de beauté le mourant quelques jours avant sa mort, et lui inspire les plus riants projets, qui conseille au savant de hausser sa lampe nocturne au moment où elle l'éclaire parfaitement, qui fait craindre à une mère le regard trop profond jeté sur son enfant par un homme perspicace. Nous subissons tous cette influence dans les grandes catastrophes de notre vie, et ne l'avons encore ni nommée ni étudiée. C'est plus que le pressentiment, et ce n'est pas encore la vision. Tout alla bien jusqu'au lendemain. Le lundi, Jules démarrait, obligé d'être à la bourse à son heure accoutumée, ne sortit pas sans aller, suivant son habitude, demander à sa femme si elle voulait profiter de sa voiture. « Non, dit-elle, il fait trop mauvais temps pour se promener. En effet, il pleuvait à verse. » Il était environ 2h30 quand M. Desmarets se rendit au parquet et au trésor. À 4h, en sortant de la bourse, il se trouva nez à nez devant M. de Maulincourt, qui l'attendait là, avec la pertinacité fiévreuse que donnent la haine et la vengeance. « Monsieur, j'ai des renseignements importants à vous communiquer, » dit l'officier en prenant l'agent de change par le bras. « Écoutez, je suis un homme trop loyal pour avoir recours à des lettres anonymes qui troubleraient votre repos. J'ai préféré vous parler. Enfin, croyez que s'il ne s'agissait pas de ma vie, je ne m'immiscerais, certes, en aucune manière dans les affaires d'un ménage. Quand même je pourrais m'en croire le droit. Si ce que vous avez à me dire concerne Madame Desmarets, répondit Jules, je vous prierai, monsieur, de vous taire. Si je me taisais, monsieur, vous pourriez voir avant peu Madame Jules sur les bancs de la cour d'assises, à côté d'un forçat. Faut-il me taire maintenant ? Jules pâlit, mais sa belle figure reprit promptement un calme faux. Puis, entraînant l'officier sous les auvents de la bourse provisoire où il se trouvait alors, il lui dit d'une voix qui voilait une profonde émotion intérieure, « Monsieur, je vous écouterai. Mais il y aura entre nous un duel à mort, si. Oh, j'y consens !» s'écria M. de Maulincourt. « J'ai pour vous la plus grande estime. Vous parlez de mort, monsieur ? Vous ignorez sans doute que votre femme a peut-être fait empoisonner samedi soir. Oui, monsieur. Depuis avant-hier, il se passe en moi quelque chose d'extraordinaire. Mes cheveux me distillent intérieurement à travers le crâne une fièvre et une langueur mortelles, et je sais parfaitement quel homme a touché mes cheveux pendant le bal. » Monsieur de Maulincourt raconta, sans en omettre un seul fait, et son amour platonique pour Madame Jules, et les détails de l'aventure qui commence cette scène. Tout le monde l'eût écouté avec autant d'attention que l'agent de change. Mais le mari de Madame Jules avait le droit d'en être plus étonné que qui que ce fût au monde. Là se déploya son caractère. Il fut plus surpris qu'abattu. Devenu juge, et juge d'une femme adorée, il trouva dans son âme la droiture du juge, comme il en prit l'inflexibilité. Amant encore, il songea moins à sa vie brisée qu'à celle de sa femme. Il écouta, non sa propre douleur, mais la voix lointaine qui lui criait « Clémence ne saurait mentir. Pourquoi te trahirait-elle » « Monsieur, dit l'officier aux gardes en terminant, certain d'avoir reconnu, samedi soir, dans ce monsieur Funcal, ce Ferragus que la police croit mort. J'ai mis aussitôt sur ses traces un homme intelligent. En revenant chez moi, je me suis souvenu, par un heureux hasard, du nom de Madame Ménardy, cité dans la lettre de cette Ida, la maîtresse présumée de mon persécuteur. Muni de ce seul renseignement, mon émissaire me rendra promptement compte de cette épouvantable aventure, car il est plus habile à découvrir la vérité que ne l'est la police elle-même. « Monsieur, répondit l'agent de change, je ne saurais vous remercier de cette confidence. Vous m'annoncez des preuves, des témoins. Je les attendrai. Je poursuivrai courageusement la vérité dans cette affaire étrange. Mais vous me permettrez de douter jusqu'à ce que l'évidence des faits me soit prouvée. En tout cas, vous aurez satisfaction, car vous devez comprendre qu'il nous en faut une. » Monsieur Jules revint chez lui. « Qu'as-tu, Jules ? » lui dit sa femme. « Tu es pas à faire peur ?»« Le temps est froid, » dit-il en marchant d'un pas lent dans cette chambre où tout parlait de bonheur et d'amour. Cette chambre si calme où se préparait une tempête meurtrière. « Tu n'es pas sorti aujourd'hui ? » reprit-il machinalement en apparence. Il fut poussé sans doute à faire cette question par la dernière des mille pensées qui s'était secrètement enroulée dans une méditation lucide, quoique précipitamment activée par la jalousie. « Non, » répondit-elle avec un faux accent de candeur. En ce moment, Jules aperçut dans le cabinet de toilette de sa femme quelques gouttes d'eau sur le chapeau de velours qu'elle mettait le matin. Monsieur Jules était un homme violent, mais aussi plein de délicatesse, et il lui répugna de placer sa femme en face d'un démenti. Dans une telle situation, tout doit être fini pour la vie entre certains êtres. Cependant, ces gouttes d'eau furent comme une lueur qui lui déchira la cervelle. Il sortit de sa chambre, descendit à la loge, et dit à son concierge, après s'être assuré qu'il y était seul, « Foucrot, 100 écus de rente si tu dis vrai, chassé si tu me trompes, et rien si, m'ayant dit la vérité, tu parles de ma question et de ta réponse. » Il s'arrêta pour bien voir son concierge, qui l'attira sous le jour de la fenêtre, et reprit. « Madame est-elle sortie ce matin ?»« Madame est sortie à 3h moins un quart, et je crois l'avoir vue rentrer il y a une demi-heure. Cela est vrai, sur ton honneur ?
Oui, monsieur. Tu auras la rente que je t'ai promise. Mais si tu parles, souviens-toi de ma promesse. Alors tu perdrais tout.
Jules revint chez sa femme. Clémence, lui dit-il, j'ai besoin de mettre un peu d'ordre dans mes comptes de maison.
Ne t'offense donc pas de ce que je vais te demander.
Ne t'ai-je pas remis 40 000 francs depuis le commencement de l'année ?
Plus, dit-elle, 47.
En trouverais-tu bien l'emploi ?
Mais oui, dit-elle. D'abord, j'avais à payer plusieurs mémoires de l'année dernière.
Je ne saurais rien ainsi, se dit Jules. Je m'y prends mal.
En ce moment, le valet de chambre de Jules entra et lui remit une lettre qu'il ouvrit par contenance. Mais il la lut avec avidité lorsqu'il eut jeté les yeux sur la signature.
Monsieur, dans l'intérêt de votre repos et du nôtre, j'ai pris le parti de vous écrire sans avoir l'avantage d'être connu de vous. Mais ma position, mon âge et la crainte de quelques malheurs me forcent à vous prier d'avoir de l'indulgence dans une conjoncture fâcheuse où se trouve notre famille désolée.
Monsieur Auguste de Maulincourt nous a donné depuis quelques jours des preuves d'aliénation mentale, et nous craignons qu'il ne trouble votre bonheur par des chimères dont il nous a entretenus, monsieur le commandeur de Pamiers et moi, pendant un premier accès de fièvre. Nous vous prévenons donc de sa maladie, sans doute guérissable encore. Elle a des effets si graves et si importants pour l'honneur de notre famille et l'avenir de mon petit-fils que je compte sur votre entière discrétion. Si monsieur le commandeur ou moi, monsieur, avions pu nous transporter chez vous, nous nous serions dispensés de vous écrire. Mais je ne doute pas que vous n'ayez égard à la prière qui vous est faite ici par une mère de brûler cette lettre. Agréez l'assurance de ma parfaite considération. Baronne de Maulincourt, née de Rieux.
Combien de tortures ! S'écria Jules.
Mais que se passe-t-il donc en toi ?
Lui dit sa femme en témoignant une vive anxiété.
J'en suis arrivé, répondit Jules, à me demander si c'est toi qui me fais parvenir cet avis pour dissiper mes soupçons, reprit-il en lui jetant la lettre.
Ainsi, juge de mes souffrances.
Le malheureux, dit madame Jules en laissant tomber le papier. Je le plains, quoi qu'il me fasse bien du mal.
Tu sais qu'il m'a parlé ?
Ah ! Tu es allé le voir malgré ta parole ? Dit-elle frappée de terreur.
Clémence, notre amour est en danger de périr, et nous sommes en dehors de toutes les lois ordinaires de la vie. Laissons donc les petites considérations au milieu des grands périls.
Écoute, dis-moi pourquoi tu es sorti ce matin.
Les femmes se croient le droit de nous faire quelquefois de petits mensonges. Ne se plaisent-elles pas souvent à nous cacher des plaisirs qu'elles nous préparent ? Tout à l'heure, tu m'as dit un mot pour un autre, sans doute, un non pour un oui.
Il entra dans le cabinet de toilette et en rapporta le chapeau.
Tiens, vois, sans vouloir faire ici le Bartolo, ton chapeau t'a trahi ? Ces taches ne sont-elles pas des gouttes de pluie ? Donc tu es sorti en fiacre. Et tu as reçu ces gouttes d'eau, soit en allant chercher une voiture, soit en entrant dans la maison où tu es allé, soit en la quittant. Mais une femme peut sortir de chez elle fort innocemment, même après avoir dit à son mari qu'elle ne sortirait pas.
Il y a tant de raisons pour changer d'avis. Avoir des caprices, n'est-ce pas un de vos droits ?
Vous n'êtes pas obligé d'être conséquente avec vous-même. Tu auras oublié quelque chose, un service à rendre, une visite, ou quelque bonne action à faire. Mais rien n'empêche une femme de dire à son mari ce qu'elle a fait.
Rougit-on jamais dans le sein d'un ami ?
Eh bien, ce n'est pas le mari jaloux qui te parle, ma Clémence. C'est l'amant, c'est l'ami, le frère.
Il se jeta passionnément à ses pieds.
Parle, non pour te justifier, mais pour calmer d'horribles souffrances. Je sais bien que tu es sorti. Eh bien, qu'as-tu fait ? Où es-tu allé ?
Oui, je suis sorti, Jules, répondit-elle d'une voix altérée, quoique son visage fût calme. Mais ne me demande rien de plus. Attends avec confiance. Sans quoi tu te créeras des remords éternels.
Jules, mon Jules, la confiance est la vertu de l'amour.
Je te l'avoue. En ce moment, je suis trop troublé pour te répondre.
Mais je ne suis point une femme artificieuse. Et je t'aime, tu le sais.
Au milieu de tout ce qui peut ébranler la foi d'un homme, en éveiller la jalousie. Car je ne suis donc pas le premier dans ton cœur. Je ne suis donc pas toi-même.
Eh bien, Clémence, j'aime encore mieux te croire. Croire en ta voix, croire en tes yeux.
Si tu me trompes, tu mériterais. Oh, 1000 morts, dit-elle en l'interrompant.
Moi, je ne te cache aucune de mes pensées.
Et toi, tu...
Chut, dit-elle. Notre bonheur dépend de notre mutuel silence.
Ah, je veux tout savoir !
S'écria-t-il dans un violent accès de rage.
En ce moment, des cris de femmes se firent entendre, et les glapissements d'une petite voix aigre arrivèrent de l'antichambre jusqu'aux deux époux.
J'entrerai, je vous dis, criait-on. Oui, j'entrerai, je veux la voir, je la verrai.
Jules et Clémence se précipitèrent dans le salon, et ils virent bientôt les portes s'ouvrir avec violence. une jeune femme se montra tout à coup, suivie de deux domestiques qui dirent à leur maître « Monsieur, cette femme veut entrer ici malgré nous. Nous lui avons déjà dit que madame n'y était pas. Elle nous a répondu qu'elle savait très bien que madame était sortie, mais qu'elle venait de la voir rentrer. Elle nous menace de rester à la porte de l'hôtel jusqu'à ce qu'elle ait parlé à madame. « Retirez-vous, » dit monsieur Desmarais à ses gens. « Que voulez-vous, mademoiselle ? » ajouta-t-il en se tournant vers l'inconnu. Cette demoiselle était le type d'une femme qui ne se rencontre qu'à Paris. Elle se fait à Paris, comme la boue, comme le pavé de Paris, comme l'eau de la Seine se fabrique à Paris, dans de grands réservoirs à travers lesquels l'industrie la filtre 10 fois avant de la livrer aux carafes à facettes, où elle scintillait claire et pure, de fangeuse qu'elle était. Aussi est-ce une créature véritablement originale. 20 fois saisie par le crayon du peintre, par le pinceau du caricaturiste, par la plombagine du dessinateur, elle échappe à toutes les analyses, parce qu'elle est insaisissable dans tous ses modes, comme l'est la nature, comme l'est ce fantasque Paris. En effet, elle ne tient au vice que par un rayon, et s'en éloigne par les 1000 autres points de la circonférence sociale. D'ailleurs, elle ne laisse deviner qu'un trait de son caractère, le seul qui la rende blâmable. Ses belles vertus sont cachées, son naïf dévergondage, elle en fait gloire. Incomplètement traduite dans les drames et les livres, où elle était mise en scène avec toutes ses poésies, elle ne sera jamais vraie que dans son grenier, parce qu'elle sera toujours, autre part, ou calomniée, ou flattée. Riche, elle se vicie. Pauvre, elle est compromise. Et cela ne saurait être autrement. Elle a trop de vices et trop de bonnes qualités. Elle est trop près d'une asphyxie sublime ou d'un rire flétrissant. Elle est trop belle et trop hideuse. Elle personnifie trop bien Paris. Qu'elle, elle fournit des portières édentées, des laveuses de linge, des balayeuses, des mendiantes, parfois des comtesses impertinentes, des actrices admirées, des cantatrices applaudies. Elle a même donné jadis 2 quasi-reines à la monarchie. Qui pourrait saisir un tel protée? Elle est toute la femme, moins que la femme, plus que la femme. De ce vaste portrait, un peintre de mœurs ne peut rendre que certains détails. L'ensemble est l'infini. C'était une grisette de Paris, mais la grisette dans toute sa splendeur. La grisette en fiacre, heureuse, jeune, belle, fraîche, mais grisette, et grisette à griffes, à ciseaux, hardie comme une espagnole, hargneuse comme une prude anglaise réclamant ses droits conjugaux, coquette comme une grande dame, plus franche et prête à tout. Une véritable lionne sortie du petit appartement, dont elle avait tant de fois rêvé les rideaux de calicot rouge. Le meuble en velours d'Utrecht, la table à thé, le cabaret de porcelaines à sujet peint, la causeuse, le petit tapis de moquette, la pendule d'albâtre et les flambeaux sous verre, la chambre jaune, le mol édredon. Bref, toutes les joies de la vie des grisettes. La femme de ménage, ancienne grisette elle-même, mais grisette à moustaches et à chevrons, les parties de spectacle, les marrons à discrétion, les robes de soie et les chapeaux à gâcher. Enfin, toutes les félicités calculées au comptoir des modistes, moins l'équipage, qui n'apparaît dans les imaginations du comptoir que comme un bâton de maréchal dans les songes d'un soldat. Oui, cette grisette avait tout cela pour une affection vraie, ou malgré l'affection vraie, comme quelques autres l'obtiennent souvent pour 1 heure par jour, espèce d'impôt insouciamment acquitté sous les griffes d'un vieillard. La jeune femme qui se trouvait en présence de monsieur et madame Jules avait le pied si découvert dans sa chaussure qu'à peine voyait-on une légère ligne noire entre les tapis et son bas blanc. Cette chaussure, dont la caricature parisienne rend si bien le trait, est une grâce particulière à la grisette parisienne, mais elle se trahit encore mieux aux yeux de l'observateur par le soin avec lequel ses vêtements adhèrent à ses formes, qu'il dessine nettement. Ainsi, l'inconnue était-elle, pour ne pas perdre l'expression pittoresque créée par le soldat français, ficelée dans une robe verte, à guimpe, qui laissait deviner la beauté de son corsage, alors parfaitement visible. Car son châle de cachemire terneau, tombant à terre, n'était plus retenu que par les 2 bouts qu'elle gardait entortillés admis dans ses poignets. Elle avait une figure fine, des joues roses, un teint blanc, des yeux gris étincelants, un front bombé, très proéminent, des cheveux soigneusement lissés qui s'échappaient de son petit chapeau, en grosses boucles sur son cou. « Je me nomme Ida, monsieur, et si c'est là madame Jules, à laquelle j'ai l'avantage de parler, je venais pour lui dire tout ce que j'ai sur le cœur, » compte-t-elle. « C'est très mal, quand on a son affaire faite, et qu'on est dans ses meubles comme vous êtes ici, de vouloir enlever à une pauvre fille un homme avec lequel j'ai contracté un mariage moral.
et qui parle de réparer ses torts en m'épousant à la municipalité. Il y a bien assez de jolis jeunes gens dans le monde, pas vrai, monsieur, pour se passer ses fantaisies, sans venir me prendre un homme d'âge qui fait mon bonheur. Ken, je n'ai pas une belle hôtel, moi. J'ai mon amour. Je hais les bels hommes et l'argent. Je suis tout cœur. Et...
Madame Jules se tourna vers son mari. « Vous me permettrez, monsieur, de ne pas en entendre davantage, » dit-elle en rentrant dans sa chambre.
« Si cette dame est avec vous, j'ai fait des brioches, à ce que je vois. Mais tant pire, » reprit Ida. « Pourquoi vient-elle voir monsieur Ferragus tous les jours ?»«
Vous vous trompez, mademoiselle, » dit Jules stupéfait.
« Ma femme est incapable. Oh, »« Vous êtes mariés, vous deux ?»
dit la grisette en manifestant quelques surprises.
« C'est alors bien plus mal, monsieur, à vrai ?» à une femme qui a le bonheur d'être mariée en légitime mariage, d'avoir des rapports avec un homme comme Henri.
« Mais quoi, Henri ?» dit Monsieur Jules en prenant Ida, et l'entraînant dans une pièce voisine pour que sa femme n'entendît plus rien.
« Eh bien, Monsieur Ferragus, mais il est mort, » dit Jules. « Cette farce !»«
Je suis allé à Franconi avec lui hier au soir,
et il m'a ramené, comme cela se doit. D'ailleurs, votre dame peut vous en donner des nouvelles. N'est-elle pas allée le voir à 3 heures ? Je le sais bien, je l'ai attendu dans la rue. »
Rapport à ce qu'un aimable homme... Monsieur Justin, que vous connaissez peut-être, un petit vieux qui a des breloques, qui porte un corset, m'avait prévenu que j'avais une Madame Jules pour rivale.
Ce nom-là, monsieur, est bien connu parmi les noms de guerre. Excusez, puisque c'est le vôtre. Mais quand Madame Jules serait une duchesse de la cour, Henri est si riche qu'il peut satisfaire toutes ses fantaisies. Mon affaire est de défendre mon bien, et j'en ai le droit. Car moi, je l'aime, Henri. C'est ma première inclination. Et il y va de mon amour et de mon sort à venir. Je ne crains rien. « Monsieur, je suis honnête, et je n'ai jamais menti, ni volé le bien de qui que ce soit. Ce serait une impératrice qui serait ma rivale, que j'irais à elle tout droit. Et si elle m'enlevait mon mari futur, je me sens capable de la tuer, toute impératrice qu'elle serait, parce que toutes les belles femmes sont égales, monsieur. »«
Assez, assez, » dit Jules. « Où demeurez-vous ? » ?»« Rue de la Corderie du Temple, numéro 14, monsieur. Ida Gruget, couturière en corset. Pour vous servir, car nous en faisons beaucoup pour les messieurs. » « Et où demeure l'homme que vous nommez Ferragus ?»«
Mais, monsieur, » dit-elle en se pinçant les lèvres, « ce n'est d'abord pas un homme. C'est un monsieur plus riche que vous ne l'êtes peut-être. Mais pourquoi est-ce que vous me demandez son adresse quand votre femme le sait ? Il m'a dit de ne point la donner. Est-ce que je suis obligé de vous répondre ? Je ne suis, Dieu merci, ni au confessionnal ni à la police, et je ne dépends que de moi.
Et si je vous offrais 20, 30, 40 000 francs pour me dire où demeure monsieur Ferragus ?
« Ah, Nini, mon petit ami, c'est fini !»
dit-elle en joignant à cette singulière réponse un geste populaire.
« Il n'y a pas de somme qui me fasse dire cela. J'ai bien l'honneur de vous saluer. Par où s'en va-t-on donc d'ici ?»
Jules, atterré, laissa partir Ida, sans songer à elle. Le monde entier semblait s'écrouler sous lui, et au-dessus de lui, le ciel tombait en éclats. « Monsieur est servi, » lui dit son valet de chambre. Le valet de chambre et le valet d'office attendirent dans la salle à manger pendant environ un quart d'heure sans voir arriver leur maître. « Madame ne dînera pas, » vint dire la femme de chambre. « Qu'y a-t-il donc, Joséphine ?» demanda le valet. « Je ne sais pas, » répondit-elle. « Madame pleure et va se mettre au lit. » Monsieur avait sans doute une inclination en ville, et cela s'est découvert dans un bien mauvais moment. Entendez-vous ? Je ne répondrai pas de l'avis de madame. Tous les hommes sont si gauches. Ils vous font toujours des scènes sans aucune précaution.
« Pas du tout. »
reprit le valet de chambre à voix basse. « C'est, au contraire, madame qui...
Enfin, vous comprenez.
Quel temps aura donc monsieur pour aller en ville ? Lui qui, depuis 5 ans, n'a pas couché une seule fois hors de la chambre de madame, qui descend à son cabinet à 10 heures, et n'en sort qu'à midi pour déjeuner. Enfin, sa vie est connue, elle est régulière, au lieu que madame file presque tous les jours. À 3 heures, on ne sait tout. Et monsieur aussi, » dit la femme de chambre en prenant le parti de sa maîtresse.
« Mais il va à la bourse, monsieur. »«
Voilà pourtant 3 fois que je l'avertis qu'il est servi, » reprit le valet de chambre après une pause. « Et c'est comme si l'on parlait à une terne. » Monsieur Jules entra. « Où est madame ? » demanda-t-il. « Madame va se coucher. Elle a la migraine, » répondit la femme de chambre en prenant un air important. Monsieur Jules dit alors avec beaucoup de sang-froid, en s'adressant à ses gens, « Vous pouvez desservir. Je vais tenir compagnie à madame. » Et il rentra chez sa femme qu'il trouva pleurant, mais étouffant ses sanglots dans son mouchoir. « Pourquoi pleurez-vous ? » lui dit Jules. « Vous n'avez à attendre de moi ni violence ni reproche. Pourquoi me vengerais-je ? Si vous n'avez pas été fidèle à mon amour, c'est que vous n'en étiez pas digne. »«
Pas digne ?
Ces mots répétés s'entendirent à travers les sanglots. Et l'accent avec lequel ils furent prononcés eût attendri tout autre homme que Jules. « Pour vous tuer, il faudrait aimer plus que je n'aime, peut-être, » dit-il en continuant. « Mais je n'en aurais pas le courage. Je me tuerais plutôt, moi, vous laissant à votre bonheur et à qui ?» Il n'acheva pas. « Se tuer ?» cria Clémence en se jetant aux pieds de Jules et les tenant embrassés. Mais lui voulut se débarrasser de cette étreinte et secoua sa femme en la traînant jusqu'au lit. « Laissez-moi, » dit-il. « Non, non, Jules, » criait-elle. « Si tu ne m'aimes plus, je mourrai. Veux-tu tout savoir ?»« Oui. » Il la prit, la serra violemment, s'assit sur le bord du lit, la retint entre ses jambes. Puis, regardant d'un œil sec cette belle tête devenue couleur de feu, mais sillonnée de larmes, « Allons, dis !» répéta-t-il. Les sanglots de Clémence recommencèrent. « Non, c'est un secret de vie et de mort. Si je le disais, je... Non, je ne puis pas. Grâce, Jules. Tu me trompes toujours ? Ah, tu ne me dis plus vous ? » s'écria-t-elle. « Oui, Jules, tu peux croire que je te trompe. Mais bientôt, tu sauras tout. Mais ce Ferragus, ce forçat que tu vas voir, cet homme enrichi par des crimes, s'il n'est pas à toi, si tu ne lui appartiens pas. Oh, Jules ! Eh bien, est-ce ton bienfaiteur inconnu ? L'homme auquel nous devrions notre fortune ? Comme on l'a déjà dit. Qui a dit cela ? Un homme que j'ai tué en duel. Oh Dieu, déjà une mort ? Si ce n'est pas ton protecteur, s'il ne te donne pas de l'or, si c'est toi qui lui emporte. Voyons, est-ce ton frère ? Eh bien, dit-elle, si cela était. Monsieur Desmarets se croisa les bras. Pourquoi me l'aurait-on caché ? Reprit-il. Vous m'auriez donc trompé, ta mère et toi ? D'ailleurs, va-t-on chez son frère tous les jours, ou presque tous les jours ? Hein ? Sa femme était évanouie à ses pieds. « Morte, » dit-il, « et si j'avais tort ?» Il sauta sur les cordons de sonnette, appela Joséphine et mit Clémence sur le lit. « J'en mourrai, » dit Madame Jules en revenant à elle. « Joséphine !» cria Monsieur Desmarets. « Allez chercher Monsieur Desplein, puis vous irez après chez mon frère, en le priant de venir le plus tôt possible. « Pourquoi votre frère ?» dit Clémence. Jules était déjà sorti. Pour la première fois depuis 5 ans, Madame Jules se coucha seule dans son lit et fut contrainte de laisser entrer un médecin dans sa chambre sacrée. Ce fut deux peines bien vives. Desplein trouva Madame Jules fort mal. Jamais émotion violente n'avait été plus intempestive. Il ne voulut rien préjuger et remit au lendemain à donner son avis, après avoir ordonné quelques prescriptions qui ne furent point exécutées, les intérêts du cœur ayant fait oublier tous les soins physiques. Vers le matin, Clémence n'avait pas encore dormi. Elle était préoccupée par le sourd murmure d'une conversation qui durait depuis plusieurs heures entre les deux frères. Mais l'épaisseur des murs ne laissait arriver à son oreille aucun mot qui pût lui trahir l'objet de cette longue conversation. Monsieur Desmarets, le notaire, s'en alla bientôt. Le calme de la nuit, puis la singulière activité des sens que donne la passion, permirent alors à Clémence d'entendre le cri d'une plume et les mouvements involontaires d'un homme occupé à écrire. Ceux qui passent habituellement les nuits et qui ont observé les différents effets de l'acoustique par un profond silence, savent que souvent, un léger retentissement est facile à percevoir dans les mêmes lieux où des murmures égaux et continus n'avaient rien de distinctible. À 4 heures, le bruit cessa. Clémence se leva inquiète et tremblante. Puis, pieds nus, sans peignoir, ne pensant ni à sa moiteur, ni à l'état dans lequel elle se trouvait, la pauvre femme ouvrit heureusement la porte de communication sans la faire crier. Elle vit son mari, une plume à la main, tout endormi dans son fauteuil. Les bougies brûlaient dans les bobèches. Elle s'avança lentement et lut sur une enveloppe déjà cachetée « Ceci est mon testament ». Elle s'agenouilla comme devant une tombe et baisa la main de son mari qui s'éveilla soudain. « Jules, mon ami, l'on accorde quelques jours aux criminels condamnés à mort », dit-elle en le regardant avec des yeux allumés par la fièvre et par l'amour. « Ta femme innocente ne t'en demande que 2. Laisse-moi libre pendant 2 jours et attends. Après, je mourrai heureuse, du moins tu me regretteras. Clémence, je te les accorde. » Et, comme elle baisait les mains de son mari dans une touchante effusion de cœur, Jules, fasciné par ce cri de l'innocence, la prit et la baisa au front, tout heureux de subir encore le pouvoir de cette noble beauté. Le lendemain, après avoir pris quelques heures de repos, Jules entra dans la chambre de sa femme, obéissant machinalement à sa coutume de ne point sortir sans l'avoir vue. Clémence dormait, Un rayon de lumière, passant par les fentes les plus élevées des fenêtres, tombait sur le visage de cette femme accablée. Déjà les douleurs avaient altéré son front et la fraîche rougeur de ses lèvres. L'œil d'un amant ne pouvait pas se tromper à l'aspect de quelques marbrures foncées et de la pâleur maladive qui remplaçait, et le ton égal des joues et la blancheur mate du teint, deux fonds purs sur lesquels se jouaient si naïvement les sentiments de cette belle âme. « Elle souffre, » se dit Jules. « Pauvre Clémence, que Dieu nous protège !» Il la baisa doucement sur le front. Elle s'éveilla, vit son mari et comprit tout. Mais ne pouvant parler, elle lui prit la main, et ses yeux se mouillèrent de larmes.
« Je suis innocente, » dit-elle en achevant son rêve.
« Tu ne sortiras pas ?» lui demanda Jules.
« Non, je me sens trop faible pour quitter mon lit.
Si tu changes d'avis, attends mon retour, » dit Jules, et il descendit à la loge.
« Foucrot, vous surveillerez exactement votre porte. Je veux connaître les gens qui entreront dans l'hôtel et ceux qui en sortiront. » Puis Monsieur Jules se jeta dans un fiacre, se fit conduire à l'hôtel de Molincourt et y demanda le baron. « Monsieur est malade, » lui dit-on. Jules insista pour entrer, donna son nom. Et, à défaut de Monsieur de Molincourt, il voulut voir le vidame ou la douairière. Il attendit pendant quelque temps dans le salon de la vieille baronne qui vint le trouver et lui dit que son petit-fils était beaucoup trop indisposé pour le recevoir. « Je connais, madame, » répondit Jules, « la nature de sa maladie par la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire. Et je vous prie de croire. Une lettre à vous, monsieur, de moi ?» s'écria la douairière en l'interrompant. « Mais je n'ai point écrit de lettre. Et que m'y fait-on dire, monsieur, dans cette lettre ?»«
Madame, » reprit Jules, « ayant l'intention de venir chez monsieur de Molincourt aujourd'hui même, et de vous rendre cette lettre, j'ai cru pouvoir la conserver malgré l'injonction qui la termine. La voici. » La douairière sonna pour avoir ses doubles vésicles, et, lorsqu'elle eut jeté les yeux sur le papier, elle manifesta la plus grande surprise. « Monsieur, » dit-elle, « mon écriture est si parfaitement imitée que s'il ne s'agissait pas d'une affaire récente, je m'y tromperais moi-même. Mon petit-fils est malade, il est vrai, monsieur, mais sa raison n'a jamais été le moindrement du monde altérée. Nous sommes le jouet de quelques mauvaises gens. Cependant, je ne devine pas dans quel but a été faite cette impertinence. Vous allez voir mon petit-fils, monsieur, et vous reconnaîtrez qu'il est parfaitement sain d'esprit. » Et elle sonna de nouveau pour faire demander au baron s'il pouvait recevoir monsieur Desmarets. Le valet revint avec une réponse affirmative. Jules monta chez Auguste de Molincourt, qu'il trouva dans un fauteuil, assis au coin de la cheminée, et qui, trop faible pour se lever, le salua par un geste mélancolique. Le vidame de Pamiers lui tenait compagnie. « Monsieur le baron, » dit Jules, « j'ai quelque chose à vous dire d'assez particulier pour désirer que nous soyons seuls. »« Monsieur, » répondit Auguste, « monsieur le commandeur sait toute cette affaire, et vous pouvez parler devant lui sans crainte. »« Monsieur le baron, » reprit Jules d'une voix grave, « vous avez troublé, presque détruit mon bonheur, sans en avoir le droit. Jusqu'au moment où nous verrons qui de nous peut demander ou doit accorder une réparation à l'autre, vous êtes tenu de m'aider à marcher dans la voie ténébreuse où vous m'avez jeté. » Je viens donc pour apprendre de vous la demeure actuelle de l'être mystérieux qui exerce sur nos destinées une si fatale influence et qui semble avoir à ses ordres une puissance surnaturelle. Hier, au moment où je rentrais, après avoir entendu vos aveux, voici la lettre que j'ai reçue. Et Jules lui présenta la fausse lettre. Ce Ferragus, ce Bourignard, ou ce monsieur de Funcal est un démon, s'écria Molincourt après l'avoir lu. Dans quel affreux dédale ai-je mis le pied? « Où vais-je ? J'ai eu tort, monsieur, » dit-il en regardant Jules. « Et la mortée, certes, la plus grande des expiations, et ma mort approche. Vous pouvez donc me demander tout ce que vous désirerez. Je suis à vos ordres. Monsieur, vous devez savoir où demeure l'inconnu. Je veux absolument, dût-il m'en coûter toute ma fortune actuelle, pénétrer ce mystère. Et, en présence d'un ennemi si cruellement intelligent, les moments sont précieux. « Justin va tout vous dire, » répondit le baron. À ces mots, le commandeur s'agita sur sa chaise. Auguste sonna. « Justin n'est pas à l'hôtel, » s'écria le vidame avec une précipitation qui disait beaucoup de choses. « Eh bien, » dit vivement Auguste, « nos gens savent où il est. Un homme montera vite à cheval pour le chercher. Votre valet est dans Paris, n'est-ce pas? On l'y trouvera. » Le commandeur parut visiblement troublé. « Justin ne viendra pas, mon ami, » dit le vieillard. « Il est mort. Je voulais te cacher cet accident, mais... » « Mort ! » s'écria Monsieur de Molincourt. « Mort ! Et quand ?
Mais comment ?
Hier, dans la nuit, il est allé souper avec d'anciens amis et s'est enivré sans doute. Ses amis, pris de vin comme lui, l'auront laissé se coucher dans la rue et une grosse voiture lui a passé sur le corps. Le forçat ne l'a pas manqué. Du premier coup, il l'a tué, dit Auguste. Il n'a pas été si heureux avec moi. Il a été obligé de s'y prendre à 4 fois.
Jules devint sombre et pensif.
Je ne saurais donc rien, s'écria l'agent de change après une longue pause. Votre valet a peut-être été justement puni. N'a-t-il pas outrepassé vos ordres en calomniant Madame Desmarets dans l'esprit d'une Ida, dont il a réveillé la jalousie afin de la déchaîner sur nous?
Ah, monsieur, dans ma colère, je lui avais abandonné Madame Jules.
Monsieur, s'écria le mari vivement irrité.
Oh, maintenant, monsieur, répondit l'officier en réclamant le silence par un geste de main, je suis prêt à tout.
Vous ne ferez pas mieux que ce qui est fait, et vous ne me direz rien que ma conscience ne m'ait déjà dit. J'attends ce matin le plus célèbre professeur de toxicologie pour connaître mon sort. Si je suis destiné à de trop grandes souffrances, ma résolution est prise. Je me brûlerai la cervelle.
Vous parlez comme un enfant, s'écria le commandeur épouvanté par le sang-froid avec lequel le baron avait dit ces mots.
Votre grand-mère mourrait de chagrin.
Ainsi, monsieur, dit Jules, il n'existe aucun moyen de connaître en quel endroit de Paris demeure cet homme extraordinaire?
Je crois, monsieur, avoir entendu dire à ce pauvre Justin que monsieur de Funcal logeait à l'ambassade de Portugal ou à celle du Brésil. Monsieur de Funcal est un gentilhomme qui appartient aux deux pays. Quant au forçat, il est mort et enterré. Votre persécuteur, quel qu'il soit, me paraît assez puissant pour que vous l'acceptiez sous sa nouvelle forme, jusqu'au moment où vous aurez les moyens de le confondre et de l'écraser. Mais agissez avec prudence, mon cher monsieur. Si monsieur de Maulincour avait suivi mes conseils, rien de tout ceci ne serait arrivé.
Jules se retira froidement, mais avec politesse, et ne sut quel parti prendre pour arriver à Ferragus. Au moment où elle rentra, son concierge lui dit que madame était sortie pour aller jeter une lettre dans la boîte de la petite poste, qui se trouvait en face de la rue Ménard. Jules se sentit humilié de reconnaître la prodigieuse intelligence avec laquelle son concierge épousait sa cause, et l'adresse avec laquelle il devinait les moyens de le servir. L'empressement des inférieurs et leur habileté particulière à compromettre les maîtres qui se compromettent lui était connu. Le danger de les avoir pour complices en quoi que ce soit, il l'avait apprécié, mais il ne put songer à sa dignité personnelle qu'au moment où il se trouva si subitement ravalé. Quel triomphe pour l'esclave incapable de s'élever jusqu'à son maître, de faire tomber le maître jusqu'à lui. Jules fut brusque et dur. Autre faute. Mais il souffrait tant. Sa vie, jusque-là si droite, si pure, devenait tortueuse. Et il lui fallait maintenant ruser, mentir. Et Clémence aussi mentait et rusait. Ce moment fut un moment de dégoût. Perdu dans un abîme de pensées amères, Jules resta machinalement immobile à la porte de son hôtel. Tantôt s'abandonnant à des idées de désespoir, il voulait fuir, quitter la France, en emportant sur son amour toutes les illusions de l'incertitude. Tantôt, ne mettant pas en doute que la lettre jetée à la poste par Clémence ne s'adressât à Ferragus, il cherchait les moyens de surprendre la réponse qu'allait y faire cet être mystérieux. Tantôt il analysait les singuliers hasards de sa vie depuis son mariage, et se demandait si la calomnie dont il avait tiré vengeance n'était pas une vérité. Enfin, revenant à la réponse de Ferragus, il se disait « Mais cet homme si profondément habile, si logique dans ses moindres actes, qui voit, qui pressent, qui calcule et devine même nos pensées, Ferragus répondra-t-il? Ne doit-il pas employer des moyens en harmonie avec sa puissance? N'enverra-t-il pas sa réponse par quelque habile coquin? Ou, peut-être, dans un écrin apporté par un honnête homme qui ne saura pas ce qu'il apporte? Ou dans l'enveloppe des souliers, qu'une ouvrière viendra livrer fort innocemment à ma femme? Si Clémence et lui s'entendent, et il se défiait de tout. Et il parcourait les champs immenses, la mer sans rivage des suppositions. Puis, après avoir flotté pendant quelque temps entre 1000 parties contraires, il se trouva plus fort chez lui que partout ailleurs, et résolut de veiller dans sa maison, comme un formicaléo au fond de sa volute sablonneuse. « Foucrot, dit-il à son concierge, je suis sorti pour tous ceux qui viendront me voir. Si quelqu'un veut parler à madame ou lui apporte quelque chose, tu tinteras 2 coups, puis tu me montreras toutes les lettres qui seraient adressées ici, n'importe à qui. » Ainsi, pensa-t-il en remontant dans son cabinet qui se trouvait à l'entresol, je vais au-devant des finesses de Maître Ferragus. S'il envoie quelque émissaire assez rusé pour me demander, afin de savoir si madame est seule, au moins je ne serai pas joué comme un sot. Il se colla aux vitres qui, dans son cabinet, donnaient sur la rue, et, par une dernière ruse que lui inspira la jalousie, il résolut de faire monter son premier commis dans sa voiture et de l'envoyer à la bourse en son lieu et place, avec une lettre pour un agent de change de ses amis, auquel il expliqua ses achats et ses ventes en le priant de le remplacer. Il remit ses transactions les plus délicates au lendemain, se moquant de la hausse et de la baisse, et de toutes les dettes européennes, beau privilège de l'amour. Il écrase tout, fait tout pâlir, l'hôtel, le trône et les grands livres. À 3h30, au moment où la bourse est dans tout le feu des reports, des fins courants, des primes, des fermes, etc. Monsieur Jules vit entrer dans son cabinet Foucrot tout radieux. « Monsieur, il vient de venir une vieille femme, mais soignée. Je dis, une fine mouche. Elle a demandé monsieur, et m'a donné pour madame une lettre que voici. » En proie à une angoisse fiévreuse, Jules décacheta la lettre, mais il tomba bientôt dans son fauteuil tout épuisé. La lettre était un non-sens continuel, et il fallait en avoir la clé pour la lire. Elle avait été écrite en chiffres. « Va-t'en, Foucrot. » Le concierge sortit. « C'est un mystère plus profond que n'est la mer à l'endroit où la sonde s'y perd. Ah, c'est de l'amour. L'amour seul est aussi sagace, aussi ingénieux que l'est ce correspondant. Mon Dieu, je tuerai Clémence. » En ce moment, une idée heureuse jaillit dans sa cervelle avec tant de force qu'il en fut presque physiquement éclairé. Au jour de sa laborieuse misère, avant son mariage, Jules s'était fait un ami véritable, un demi-pméja. L'excessive délicatesse avec laquelle il avait manié les susceptibilités d'un ami pauvre et modeste, le respect dont il l'avait entouré, l'ingénieuse adresse avec laquelle il l'avait noblement forcé de participer à son opulence, sans le faire rougir, accrurent leur amitié. Jacquet resta fidèle à Desmarets, malgré sa fortune. Jacquet, homme de probité, travailleur, austère en ses mœurs, avait fait lentement son chemin dans le ministère, qui consomme à la fois le plus de friponnerie et le plus de probité. Employé au ministère des Affaires étrangères, il y avait en charge la partie la plus délicate des archives. Jacquet était dans le ministère une espèce de ver luisant, en déchiffrant et classant les dépêches. Placé plus haut que le simple bourgeois, il trouvait aux affaires étrangères tout ce qu'il y avait de plus élevé dans les rangs subalternes, et vivait obscurément, heureux d'une obscurité qu'il mettait à l'abri des revers, satisfait de payer en obol sa dette à la patrie. Adjoint né de sa mairie, il obtenait, en style de journal, toute la considération qui lui était due. Grâce à Jules, sa position s'était améliorée par un bon mariage. Patriote inconnu, ministériel en fait, il se contentait de gémir, au coin du feu, sur la marche du gouvernement. Du reste, Jacquet était dans son ménage un roi débonnaire, un homme à parapluie, qui payait à sa femme un remise dont il ne profitait jamais. Enfin, pour achever la peinture de ce philosophe sans le savoir, il n'avait pas encore soupçonné, ne devait même jamais soupçonner, tout le parti qu'il pouvait tirer de sa position, en ayant pour ami intime un agent de change, et connaissant tous les matins le secret de l'État. Cet homme sublime, à la manière du soldat ignoré qui meurt en sauvant Napoléon par un qui-vive, demeurait au ministère. En 10 minutes, Jules se trouva dans le bureau de l'archiviste. Jacquet lui avança une chaise, posa méthodiquement sur sa table son garde-vue en taffetas vert, se frotta les mains, prit sa tabatière, se leva en faisant craquer ses omoplates, se rehaussa le thorax et dit « Par quel hasard ici, monsieur Desmarets ? Que me veux-tu ? Jacquet, j'ai besoin de toi pour deviner un secret de vie ou de mort. Cela ne concerne pas la politique. Ce n'est pas à toi que je le demanderais si je voulais le savoir, » dit Jules. « Non, c'est une affaire de ménage, sur laquelle je réclame de toi le silence le plus profond. Claude-Joseph Jacquet, muet par état. « Tu ne me connais donc pas ? » dit-il en riant. « C'est ma partie, la discrétion. » Jules lui montra la lettre en lui disant « Il faut me lire ce billet adressé à ma femme. »« Diable, diable, mauvaise affaire, » dit Jacquet en examinant la lettre, de la même manière qu'un usurier examine un effet négociable. « Ah, c'est une lettre à grille. Attends. » Il laissa Jules seul dans le cabinet et revint assez promptement. « Niaiserie, mon ami. C'est écrite avec une vieille grille dont se servait l'ambassadeur de Portugal, sous monsieur de Choiseul, lors du renvoi des jésuites. Tiens, voici. » Jacquet superposa un papier à jour, régulièrement découpé, comme une de ces dentelles que les confiseurs mettent sur leur dragée. Et Jules put alors facilement lire les phrases qui restèrent à découvert. « N'aie plus d'inquiétude, ma chère Clémence. Notre bonheur ne sera plus troublé par personne. Et ton mari déposera ses soupçons. Je ne puis t'aller voir. Quelque malade que tu sois,
Il faut avoir le courage de venir. Cherche, trouve des forces. Tu en puiseras dans ton amour. Mon affection pour toi m'a contraint de subir la plus cruelle des opérations. Et il m'est impossible de bouger de mon lit. Quelques moxas m'ont été appliqués hier au soir à la nuque du cou, d'une épaule à l'autre. Et il a fallu les laisser brûler assez longtemps. Tu me comprends? Mais je pensais à toi. Je n'ai pas trop souffert. Pour dérouter toutes les perquisitions de Maulincourt, qui ne nous persécutera plus longtemps, j'ai quitté le toit protecteur de l'ambassade et suis à l'abri de toute recherche. Rue des Enfants Rouges, numéro 12, chez une vieille femme nommée Madame Étienne Gruget, la mère de cette Ida, qui va payer cher sa sotte incartade. Viens-y demain, à 9h du matin. Je suis dans une chambre à laquelle on ne parvient que par un escalier intérieur. Demande Monsieur Camuset. À demain, je te baise le front, ma chérie. Jacquet regarda Jules avec une sorte de terreur honnête, qui comportait une compassion vraie, et dit son mot favori. « Diable, diable !» sur deux tons différents. « Cela te semble clair, n'est-ce pas ?» dit Jules. « Eh bien, il y a dans le fond de mon cœur une voix qui plaide pour ma femme, et qui se fait entendre plus haut que toutes les douleurs de la jalousie. Je subirai jusqu'à demain le plus horrible des supplices. Mais enfin, demain, de 9 à 10 heures, je saurai tout, et je serai malheureuse ou heureux pour la vie. Pense à moi, Jacquet. Je serai chez toi demain à 11 heures. Nous irons là ensemble, et je t'attendrai, si tu le veux, dans la rue. Tu peux courir des dangers. Il faut près de toi quelqu'un de dévoué, qui te comprenne à demi-mot, et que tu puisses employer sûrement. Compte sur moi. Même pour m'aider à tuer quelqu'un? Diable, diable, dit Jacquet vivement en répétant pour ainsi dire la même note musicale. J'ai deux enfants et une femme. Jules serra la main de Claude Jacquet et sortit. Mais il revint précipitamment. J'oublie la lettre, dit-il. Puis ce n'est pas tout. Il faut la recacheter. Diable, diable, tu l'as ouverte sans en prendre l'empreinte. Mais le cachet s'est heureusement assez bien fendu. Va, laisse-la moi, je te la rapporterai secundum scripturam. À quelle heure? À 5h30. Si je n'étais pas encore rentré, remets-la tout bonnement au concierge, en lui disant de la monter à madame. Me veux-tu demain? Non. Adieu. Jules arriva promptement à la place de la rotonde du temple. Il y laissa son cabriolet et vint à pied rue des Enfants Rouges, où il examina la maison de Madame Étienne Gruget. Là, devait s'éclaircir le mystère d'où dépendait le sort de tant de personnes. Là était Ferragus, et à Ferragus aboutissaient tous les fils de cette intrigue. La réunion de Madame Jules, de son mari, de cet homme, n'était-elle pas le nœud gordien de ce drame déjà sanglant, et auquel ne devait pas manquer le glaive qui dénoue les liens les plus fortement serrés? Cette maison était une de celles qui appartiennent au genre d'Icabajouti. Ce nom, très significatif, est donné par le peuple de Paris à ces maisons composées, pour ainsi dire, de pièces de rapport. C'est presque toujours, ou des habitations primitivement séparées, mais réunies par les fantaisies des différents propriétaires qui les ont successivement agrandies, ou des maisons commencées, laissées, reprises, achevées. Maisons malheureuses qui ont passé, comme certains peuples, sous plusieurs dynasties de maîtres capricieux. Ni les étages ni les fenêtres ne sont ensemble, pour emprunter à la peinture un de ces termes les plus pittoresques. Toujours. Même les ornements extérieurs. Le Cabajoutis est à l'architecture parisienne, ce que le Capharnaüm est à l'appartement. Un vrai fouillis où l'on a jeté pêle-mêle les choses les plus discordantes. « Madame Étienne, » demanda Jules à la portière. Cette portière était logée sous la grande porte, dans une de ces espèces de cages à poulets. Petite maison de bois montée sur des roulettes, et assez semblable à ces cabinets que la police a construits sur toutes les places de fiacre. « Hein ?» fit la portière en quittant le bas qu'elle tricotait. À Paris, les différents sujets qui concourent à la physionomie d'une portion quelconque de cette monstrueuse cité s'harmonient admirablement avec le caractère de l'ensemble. Ainsi, portier, concierge ou suisse, quel que soit le nom donné à ce muscle essentiel du monstre parisien, il est toujours conforme au quartier dont il fait partie. Et souvent il le résume. Brodé sur toutes les coutures, oisif, le concierge joue sur les rentes dans le faubourg Saint-Germain. Le portier a ses aises dans la chaussée d'Antin. Il lit les journaux dans le quartier de la Bourse. Il a un état dans le faubourg Montmartre. La portière est une ancienne prostituée dans le quartier de la prostitution. Au Marais, elle a des mœurs. Elle est revêche. Elle a ses lubies. En voyant Monsieur Jules, cette portière prit un couteau pour remuer la motte presque éteinte de sa chaufferette. Puis elle lui dit, « Vous demandez Madame Étienne? Est-ce Madame Étienne Gruget? Oui,
dit Jules Desmarais en prenant un air presque fâché.
« Qui travaille en passementerie ?»«
Oui. »«
Eh bien, monsieur, » dit-elle en sortant de sa cage, mettant la main sur le bras de monsieur Jules et le conduisant au bout d'un long boyau voûté comme une cave, « vous montrez le second escalier au fond de la cour. Voyez-vous les fenêtres où il y a les géroflées ?»«
C'est là que reste madame Étienne. »«
Merci, madame. » »«
Croyez-vous qu'elle soit seule ?»«
Mais pourquoi donc qu'elle ne serait pas seule, cette femme ?»«
Elle est veuve ?»
Jules monta lestement un escalier fort obscur, dont les marches avaient des callosités formées par la boue durcie, qui laissaient les allants et les venants. Au second étage, il vit trois portes, mais point de géroflées. Heureusement, sur l'une de ces portes, la plus huileuse et la plus brune des trois, il lut ces mots écrits à la craie. « Ida viendra ce soir à 9h. »«
C'est là, » se dit Jules. Il tira un vieux cordon de sonnette tout noir, entendit le bruit étouffé d'une sonnette fêlée et l'échappement d'un petit chien asthmatique. La manière dont les sons retentissaient dans l'intérieur lui annonça un appartement encombré de choses, qui n'y laissait pas subsister le moindre écho, très caractéristique des logements occupés par des ouvriers, par de petits ménages, auxquels la place et l'air manquent. Jules cherchait machinalement les géroflées et finit par les trouver sur l'appui extérieur d'une croisée à coulisses, entre deux plombs empestés. Là, des fleurs. Là, un jardin long de 2 pieds, large de 6 pouces. Là, un grain de blé. Là, toute la vie résumée. Mais là aussi, toutes les misères de la vie. En face de ces fleurs chétives et des superbes tuyaux de blé, un rayon de lumière, tombant là du ciel comme par grâce, faisait ressortir la poussière, la graisse, et je ne sais quelle couleur particulière au taudis parisien. 1000 saletés qui encadraient, vieillissaient et tachaient les murs humides, les balustres vermoulus de l'escalier, les châssis disjoints des fenêtres, et les portes primitivement rouges. Bientôt une toux de vieille, et le pas lourd d'une femme, qui traînait péniblement des chaussons de lisière, annoncèrent la mère d'Ida Gruget. Cette vieille ouvrit la porte, sortit sur le palier, leva la tête et dit
« Ah, oh, c'est monsieur Boquillon !»«
Mais non,
par exemple. Vous ressemblez à monsieur Boquillon.
Vous êtes son frère, peut-être. Qu'y a-t-il pour votre service? Mais entrez donc, monsieur. »
Jules suivit cette femme dans une première pièce où il vit, mais en masse, des cages, des ustensiles de ménage, des fourneaux, des meubles, de petits plats de terre pleins de pâté ou d'eau, pour le chien et les chats, une horloge de bois, des couvertures, des gravures d'aisins, de vieux fers entassés, mêlés, confondus de manière à produire un tableau véritablement grotesque, le vrai Capharnaüm parisien, auquel ne manquaient même pas quelques numéros du Constitutionnel. Jules, dominé par une pensée de prudence, n'écouta pas la veuve Gruget, qui lui disait « Entrez donc ici, monsieur, vous vous chaufferez. » Craignant d'être entendu par Ferragus, Jules se demandait s'il ne valait pas mieux conclure, dans cette première pièce, le marché qu'il venait proposer à la vieille. Une poule, qui sortit en quelque temps d'une soupente, le tira de sa méditation secrète. Jules avait pris sa résolution. Il suivit alors la mère d'Ida dans la pièce à feu, où ils furent accompagnés par un petit carlin poussif, personnage muet, qui grimpa sur un vieux tabouret. Madame Gruget avait toute la fatuité d'une demi-misère en parlant de chauffer son hôte. Son pot-au-feu cachait complètement de tisons d'attablement disjoints. L'écumoire gisait à terre, la queue dans les cendres. Le chambranle de la cheminée, orné d'un Jésus de cire, mis sous une cage carrée en verre bordé de papier bleuâtre, était encombré de laine, de bobines et d'outils nécessaires à la passementerie. Jules examina tous les meubles de l'appartement avec une curiosité pleine d'intérêt, et manifesta malgré lui sa secrète satisfaction.
« Eh bien, dites donc, monsieur, est-ce que vous voulez vous arranger de mes meubles ?» lui dit la veuve en s'asseyant sur un fauteuil de canne jaune qui semblait être son quartier général. Elle y gardait à la fois son mouchoir, sa tabatière, son tricot, des légumes épluchés à moitié, des lunettes, un calendrier, des galons de livrets commencés, un jeu de cartes grasses et 2 volumes de romans, tout cela frappé en creux. Ce meuble, sur lequel cette vieille descendait le fleuve de la vie, ressemblait au sac encyclopédique que porte une femme en voyage, et où se trouve son ménage en abrégé. Depuis le portrait du mari, jusqu'à l'eau de mélisse pour les défaillances, des dragées pour les enfants, et du taffetas anglais pour les coupures. Jules étudia tout. Il regarda fort attentivement le visage jeune de Madame Gruget. Ses yeux gris,
sans sourcils, dénué de cils, sa bouche démeublée, ses rides pleines de tons noirs, son bonnet de tulle roux, à ruches plus rousses encore, et ses jupons d'indienne troués, ses pantoufles usées, sa chaufferette brûlée, sa table chargée de plats et de soieries, d'ouvrages en coton, en laine, au milieu desquels s'élevait une bouteille de vin. Puis, il se dit en lui-même, cette femme a quelque passion, quelque vice caché. Elle est à moi.
« Madame, dit-il à haute voix et en lui faisant un signe d'intelligence, je viens pour vous commander des galons. » Puis il baissa la voix. « Je sais, reprit-il, que vous avez chez vous un inconnu qui prend le nom de Camuset. » La vieille le regarda soudain, sans donner la moindre marque d'étonnement. « Dites, peut-il nous entendre ?
Songez qu'il s'agit de votre fortune. »
« Monsieur, répondit-elle, parlez sans crainte. Je n'ai personne ici, mais j'aurai quelqu'un là-haut qui lui serait bien impossible de vous écouter. »
« Ah, la vieille rusée ! Elle sait répondre en normand, se dit Jules. Nous pourrons nous accorder. »
« Évitez-vous la peine de mentir, madame, reprit-il. Et d'abord, sachez bien que je ne vous veux point de mal, ni à votre locataire malade de ses moxas, ni à votre fille Guida, couturière en corset, amie de Ferragus. Vous le voyez, je suis au courant de tout. Rassurez-vous, je ne suis point de la police. » Et ne désire rien qui puisse offenser votre conscience. Une jeune dame viendra demain ici, de 9 à 10 heures, pour causer avec l'ami de votre fille. Je veux être à portée de tout voir, de tout entendre, sans être ni vu ni entendu par eux. Vous m'en fournirez les moyens, et je reconnaîtrai ce service par une somme de 2000 francs une fois payée, et par 600 francs de rente viagère. Mon notaire préparera devant vous, ce soir, l'acte. Je lui remettrai votre argent. Il vous le délivrera demain, après la conférence où je veux assister, et pendant laquelle j'acquerrai les preuves de votre bonne foi. Ça pourra-t-il nuire à ma fille, mon cher monsieur ? Dit-elle en lui jetant des regards de chatte inquiète. En rien, madame. Mais, d'ailleurs, il paraît que votre fille se conduit bien mal envers vous. Aimée par un homme aussi riche, aussi puissant que les Ferragus, il devrait lui être facile de vous rendre plus heureuse que vous ne semblez l'être. Ah, mon cher monsieur, pas seulement un pauvre billet de spectacle pour l'ambigu ou la gaieté, où elle va comme elle veut. C'est une indignité. Une fille pour qui j'ai vendu mes couverts d'argent, que je mange maintenant, à mon âge, dedans du métal allemand, pour lui payer son apprentissage, et lui donner un état où elle ferait de l'or, si elle voulait. Car, pour ça, elle tient de moi. Elle est adroite comme une fée. C'est une justice à lui rendre. Enfin, elle pourrait bien me repasser mes vieilles robes de soie, moi qui aime tant à porter de la soie.
Non, monsieur, elle va au cadran bleu,
dîner à 50 francs par tête, roule en voiture comme une princesse, et se moque bien de sa mère comme de Colin Tampon. Dieu de Dieu!
Qu'est jeunesse incohérente que celle que nous avons faite!
C'est pas notre plus bel éloge.
Une mère, monsieur, qu'est bonne mère!
Car j'ai caché ses inconséquences.
Et je l'ai toujours eu dans mon giron à m'ôter le pain de la bouche.
Et lui fourrer tout.
Eh bien non, ça vient, ça vous câline. Ça vous dit « Bonjour, ma mère !» Et voilà le devoir rempli envers l'auteur de ses jours. Va comme je te pousse.
Mais elle aura des enfants, un jour ou l'autre. Et elle verra ce que c'est que cette mauvaise marchandise-là, qu'on aime tout de même.
Comment ? Elle ne fait rien pour vous ?
Ah, rien, non, monsieur. Je ne dis pas cela. Si elle ne faisait rien, ce serait par trop peu de choses. Elle me paie mon loyer. Elle me donne du bois. Et mes 36 francs par mois.
Mais, monsieur, est-ce qu'à mon âge, 52 ans, avec des yeux qui me tirent le soir, je devrais encore travailler? D'ailleurs, pourquoi ne veut-elle pas de moi? Je lui fais-t-y honte?
Qu'elle le dise tout de suite.
En vérité, faudrait s'enterrer pour ces chiens d'enfants, qui vous ont oublié rien que le temps de fermer la porte.
Elle tira son mouchoir de sa poche, et amena un billet de loterie qui tomba par terre. Mais elle le ramassa promptement en disant,
Ken,
c'est ma quittance de mes impositions. Jules devina soudain la cause de la sage parcimonie dont se plaignait la mère, et il n'en fut que plus certain de l'acquiescement de la veuve Gruget au marché proposé. « Eh bien, madame, dit-il, acceptez-vous alors ce que je vous offre. Vous disiez donc, monsieur, 2000 francs de comptant et 600 francs de viager. Madame, j'ai changé d'avis, et vous promets seulement 300 francs de rente viagère. L'affaire, ainsi faite, me paraît plus convenable à mes intérêts, mais je vous donnerai 5000 francs d'argent comptant. N'aimez-vous pas mieux cela ?
Dame,
oui, monsieur, vous aurez plus d'aisance, et vous irez à l'ambigu comique. chez Franconi. Partout. À votre aise. En fiacre. Ah, je n'aime point Franconi. Rapporte à ce qu'on n'y parle pas. Mais, monsieur, si j'accepte, est-ce que ça sera bien avantageux à mon enfant? Enfin, je ne serai plus à ses crochets. Pauvre petite, après tout. Je ne lui en veux point de ce qu'elle a du plaisir. Monsieur, faut que jeunesse s'amuse. Et donc, si vous m'assureriez que je ne ferai de tort à personne? À personne, répéta Jules. Mais, voyons, comment allez-vous vous y prendre? Eh bien, monsieur, en donnant ce soir à monsieur Ferragus une petite infusion de tête de pavot, il dormira bien, le cher homme, et il en a bon besoin. Rapporte à ses souffrances, car il souffre, que c'est une pitié. Mais aussi, demandez-moi ce que c'est que cette invention, à un homme sain, de se brûler le dos, pour sauter un tic douloureux, qui ne le tourmente que tous les 2 ans. Pour en revenir à notre affaire, j'ai la clé de ma voisine, dont le logement est au-dessus du mien, et qui a une pièce murmitoyen avec celle où couche monsieur Ferragus. Elle est à la campagne pour 10 jours. Et donc, en faisant faire un trou, pendant la nuit, au mur de séparation, vous les entendrez et les verrez à votre aise. Je suis intime avec un serrurier, un bien aimable homme, qui raconte comme un ange, et fera cela pour moi, ni vu ni connu. Voilà 100 francs pour lui. Soyez ce soir chez monsieur Desmarets, un notaire dont voici l'adresse. À 9 heures, l'acte sera prêt. Mais, motus, suffit, monsieur. Comme vous dites, momus. Au revoir, monsieur. Jules revint chez lui, presque calmé par la certitude où il était de tout savoir le lendemain. En arrivant, il trouva chez son portier la lettre parfaitement bien recachetée. « Comment te portes-tu » dit-il à sa femme malgré l'espèce de froid qui les séparait. « Les habitudes de cœur sont si difficiles à quitter. »« Assez bien, Jules, » reprit-elle d'une voix coquette. « Veux-tu dîner près de moi ?»« Oui, » répondit-il en apportant la lettre. « Tiens, voici ce que Foucrot m'a remis pour toi. » Clémence, qui était pâle, rougit extrêmement en apercevant la lettre. Et cette rougeur subite causa la plus vive douleur à son mari. « Est-ce de la joie ?» dit-il en riant. Est-ce un effet de l'attente? Oh, il y a bien des choses, dit-elle en regardant le cachet. Je vous laisse, madame. Et il descendit dans son cabinet, où il écrivit à son frère ses intentions relatives à la constitution de la rente viagère, destinée à la veuve Gruget. Quand il revint, il trouva son dîner préparé sur une petite table, près du lit de Clémence, et Joséphine prête à servir. Si j'étais debout, avec quel plaisir je te servirais? Dit-elle quand Joséphine les eut laissés seuls. Oh, même à genoux, reprit-elle en passant ses mains pâles dans la chevelure de Jules. Cher noble cœur, tu as été bien gracieuse et bien bon pour moi tout à l'heure. Tu m'as fait là plus de bien, par ta confiance, que tous les médecins de la terre ne pourraient m'en faire par leur ordonnance. Ta délicatesse de femme, car tu sais aimer comme une femme. Toi, eh bien, elle a répandu dans mon âme je ne sais quel baume qui m'a presque guéri. Il y a trêve, Jules. Avance ta tête, que je la baise. Jules ne put se refuser au plaisir d'embrasser Clémence. Mais ce ne fut pas sans une sorte de remords au cœur. Il se trouvait petit devant cette femme qu'il était toujours tenté de croire innocente. Elle avait une sorte de joie triste. Une chaste espérance brillait sur son visage à travers l'expression de ses chagrins. Il semblait également malheureux d'être obligé de se tromper l'un l'autre. Et encore une caresse, ils allaient tous avouer, ne résistant pas à leur douleur. Demain soir, Clémence. Non, monsieur, demain à midi, vous saurez tout. Et vous vous agenouillerez devant votre femme. Oh non, tu ne t'humilieras pas. Non, tu es tout pardonné. Non. Tu n'as pas de tort. Écoute, hier, tu m'as bien rudement brisé. Mais ma vie n'aurait peut-être pas été complète sans cette angoisse. Ce sera une ombre qui fera valoir les jours célestes. Tu m'ensorcelles, s'écria Jules, et tu me donnerais des remords. Pauvre ami, la destinée est plus haute que nous. Et je ne suis pas complice de ma destinée. Je sortirai demain. À quelle heure? Demanda Jules. À 9h30. Clémence, répondit monsieur Desmarets. Prends bien des précautions. Consulte le docteur Desplein et le vieil Audry. Je ne consulterai que mon cœur et mon courage. Je te laisse libre, et ne viendrai te voir qu'à midi. Tu ne me tiendras pas un peu compagnie ce soir? Je ne suis plus souffrante. Après avoir terminé ses affaires, Jules revint près de sa femme, ramené par une attraction invincible. Sa passion était plus forte que toutes ses douleurs.